milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide. Pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins, à l'heure d'été, avec notre série Vivre en ville. Et oui, nous prenons le temps de vivre chaque jour dans une ville du monde, du nord au sud, des villes métropoles aux villes villages. Aujourd'hui, ça sera peut-être plutôt village d'ailleurs. Vivre dans une ville Orient-Occident, Tbilissi, en Géorgie. Bonjour Régis Janté.
Garmat Javat.
Vous êtes le correspondant de RFI en Géorgie. Merci de nous dire bonjour en géorgien. Et vous sillonnez également, bien sûr, dans l'ex-espace soviétique. Et vous avez posé vos valises à Tbilissi il y a 13 ans maintenant, c'est ça ?
13 ans et demi.
Un choix, un hasard, une femme ?
Un hasard, la femme est venue après. Et un hasard, l'envie de se spécialiser pendant très longtemps dans une région. L'ex-URSS avait son unité, j'avais fait de la philosophie, je m'intéressais à l'ordre et au désordre, j'ai été servi.
Tbilissi, donc une ville Orient-Occident. Vous avez tout de suite proposé ce titre pour l'émission.
Oui, parce que c'est quelque chose qui est fort. Le Caucase, c'est un couloir entre la mer Noire et la mer Caspienne. Et donc, et dans ces grandes montagnes, ça monte à 5600 mètres quand même, tous les peuples de la grande région autour, arabes, persans, turcs, européens, russes, mongols, sont venus se réunir. On appelle ça la montagne des langues, d'ailleurs, le Caucase. Alors, une ville comme Tbilissi, bon, c'est d'abord géorgien, mais ça a été arabe il y a 1000 ans.
Une ville très ancienne, hein,
Une ville avec des quartiers arméniens, la bourgeoisie arménienne du 19e siècle, le quartier de Sololaki par exemple, des mosquées où les sunnis et les chiites prient ensemble, parce qu'on a des azéris qui sont en partie sunnis chiites, puis on a des tchétchènes aussi venus des montagnes, on a un quartier allemand, etc. On a des kurdes, des antiquaires si j'ose dire, Rezo, qui est un monsieur un peu rude, un peu gris comme ça, avec un russe très, très rugueux, presque aussi mauvais que le mien. T'as Yézidi par exemple, et tout. Une fois ou deux par an, il voyage au nord de l'Irak pour aller voir la famille qui va moins en ce moment compte tenu des événements. Donc voilà, plein d'influences, le quartier Plekhanov, un quartier allemand, etc.
Et puis cette langue géorgienne, qui est une langue caucasienne, que nous connaissons si mal, nous.
Oui, absolument, parce que c'est une autre branche des langues indo-européennes. Donc voilà, c'est la langue les langues du Caucase.
Et avec des mots
persan, arabe, turc.
Tbilissi, plus d'un million d'habitants, dans un pays, la Géorgie, qui a des frontières avec la Fédération de Russie au nord. Et là, on retrouve toutes les influences, l'Azerbaïdjan à l'est, l'Arménie au sud, la Turquie au sud-ouest, ça c'est pour la carte de géographie. Et bien sûr, les voisins, vous nous écoutez en direct, vous pouvez poser toutes vos questions sur les réseaux sociaux si vous le souhaitez. Des questions très précises sur le coût de la vie, si vous en avez envie, à Régis Janté. Vous nous écrivez sur le fil Facebook ou Twitter, bien sûr, de 7 milliards. 33 degrés aujourd'hui à Tbilissi. Le soleil brille franchement, mais le souvenir douloureux des inondations du printemps est encore dans toutes les têtes. On en parlera aussi avec vous, Régis. Et puis Tbilissi, c'est aussi une ville hyper politisée avec des débats acharnés. Tbilissi, ville Orient-Occident, et c'est vous qui signez le programme musical, Régis Janté.
Der çeçnetiz namazlar vardı kapsen mara o maşallah tit kos varida maşallah tit kos varida Ankara kuvan kuş bir boş kemi ben sevgine ben titredi ki kos varida titredi ki kos varida Hayda 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 hayda
Et pendant ce temps, Régis Janté danse avec les bras dans le studio de 7 milliards de voisins, ville Orient-Occident, Tbilissi, capitale de la Géorgie. On va beaucoup danser et chanter d'ailleurs dans cette émission, Régis. Que vient-on d'entendre?
Ça fait fureur dans les bazars et les marches roadka, les minibus qui font office de transport en commun. C'est un groupe géorgien, Bani, mais qui chante sur un thème tchétchène. Donc voilà, on a toutes les sonorités des montagnes du Caucase, traditionnelles, très, très gaies souvent. Et voilà, là, on en a un bel exemple.
Alors, si on arrivait à Tbilissi en avion, il n'y a pas beaucoup de vols directs d'ailleurs de la France, mais ça donne quelle image de la ville ?
On arrive dans un paysage, d'abord lorsqu'on arrive depuis l'Europe, on a les immenses monts du Caucase enneigés toujours sur sa gauche, puis derrière c'est la Russie, c'est la Fédération de Russie, et puis on arrive dans une espèce de grand couloir, la Géorgie c'est un couloir aussi entre des montagnes, avec en gros une seule grande route qui traverse tout le pays, et à Tbilissi on est sur des collines, une ville qui est comme ça au creux d'une vallée, avec la rivière Mtkvari qui passe au milieu. On remarque tout de suite les immeubles soviétiques, les grosses barres en béton toutes blanches. Mais en fait, c'est pas une ville qui a été déformée par l'architecture très fonctionnaliste soviétique. Le centre est très préservé avec ses balcons sculptés. Mais ça, on les voit lorsqu'on prend le taxi et qu'on arrive au cœur de la ville.
Il y a toujours des usines soviétiques où elles ont fermé aux portes de la ville.
Elles ont fermé. Elles sont en ruine. Ce sont toujours des ruines, ce qui donne une image un peu triste du pays. On remarque tout de suite la pauvreté. C'est assez choquant. Enfin, c'est ces usines qui marchent plus. Il y a plus d'économie.
Et qui n'ont pas été démantelées.
À une époque, le poste le plus important pour les exportations du pays, c'était la ferraille, le métal rouillé, etc. Ça en dit long sur l'état de l'économie.
Bon, alors avec vous, en tout cas, on va beaucoup pousser des portes. Hein. Tbilissi, une ville Orient-Occident, mais avant tout une petite ville où l'on connaît très bien ses voisins. Qu'est-ce qu'on entend là? Beaucoup de choses en bruit de fond.
On entend ce que j'entends toute la journée.
On est chez vous là, presque?
On est chez moi.
Cour?
On est dans ma cour. C'est ma cour, ce qu'on appelle une cour italienne. Donc voilà, dans l'Orient-Occident, il y a une influence italienne forte au 19e siècle. Ce sont des cours avec des balcons sculptés de couleurs bleu, jaune, vert. La mienne est plutôt blanche et grise parce que les voisins n'ont pas les moyens de repeindre leur galerie. Et là, on a la campagne qui débarque à la ville. On entend une dame au début qui vient vendre des pêches. Ensuite, il y a un monsieur qui vient demander s'il n'y a pas des bouteilles vides. C'est aussi la pauvreté, parce que depuis 1991, c'est dur, en Géorgie. Et puis voilà, il y a cette vie, on entend les voisins étendre leur linge, on les entend s'engueuler parfois. Il y a une vie comme ça, des cours, peut-être un peu moins tumultueuse qu'à Naples, où on ne crie pas « Gino, viens !» Mais quand même, on vit avec ses voisins aussi.
Alors, vous le disiez, depuis 1991, c'est dur, il faut le redire, hein, peut-être. 1991, donc on est 2 ans après la chute du mur.
La chute de l'URSS, 91, et on a un pays qui s'écroule littéralement. Toute l'économie était faite pour fonctionner avec le centre, Moscou, et tout d'un coup, il n'y a plus de marché, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'usines, les usines ferment, et même il y a eu une crise énergétique très, très forte au tout début, et tout d'un coup, l'électricité disparaît pendant des semaines, et mon entourage, mon épouse, par exemple, lorsque je lui parle de cette période, elle en parle avec les trémolos dans la voix, parce qu'ils ont vécu des semaines épouvantables, sans eau, sans gaz, sans électricité. À l'époque, ils voulaient refaire le parquet de l'appartement, ils l'ont brûlé pour faire chauffer le thé. Et lorsque, en 2003, le Mikhail Saakachvili devient président, et c'est un animal politique, ce monsieur, il comprend tout de suite que les Géorgiens ont besoin de gaieté, etc. La ville reste triste à ce moment-là. Et il demande au nouveau maire d'électrifier, de mettre de la lumière partout, d'éclairer la grande antenne télévisée pour mettre de la couleur et de la lumière, parce que voilà, c'était sortir de ces années terribles.
Alors, vous nous le disiez, bon, aujourd'hui, bien évidemment, on est sorti de ça, mais on est encore dans un habitat un peu de la déglingue où on répare peu.
Absolument, parce que l'eau est gratuite, il y en a beaucoup dans les montagnes du Caucase, bien sûr, et ça coûte trop cher de réparer un robinet.
Donc, même pas de facture d'eau, donc.
Non.
Ça, vous allez faire rêver certains auditeurs.
C'est vrai, mais il y a des gens qui veulent l'introduire, bien sûr. Non, ça reste très, très abordable parce que la population est pauvre, effectivement. Mais c'est la déglingue, on se débrouille. Donc, lorsque on a des gouttières qui tombent directement qui déversent directement sur le trottoir parce que chacun se débrouille comme il peut, les collecteurs d'eau ne fonctionnent plus, etc. Donc, c'est quand même.
On vit dans des appartements, essentiellement, à Tbilissi, puisque ce sont des immeubles. Alors, les immeubles Art Nouveau pour le vieux quartier, le quartier historique.
On vit dans les appartements, mais il y a aussi des maisons au centre-ville, des maisons en briques. On en trouve, effectivement.
On a dans l'ensemble de la place, dans l'habitat.
Oui. Les Géorgiens ont même d'immenses appartements, parfois hérités avec les privatisations, vous savez. Donc oui, on a de la place.
On a de la place, mais parfois on vit à plusieurs générations également.
Absolument, mes voisins, par exemple, sont des gens qui vivent, les trois générations, on s'entasse dans les chambres, parfois même on monte le lit juste pour la nuit, parce que dans la journée on n'a pas la place pour ça, ça arrive effectivement.
Alors on entendait il y a quelques minutes les voisins discuter, voire s'engueuler dans la cour, les cours à l'italienne, parce que le climat fait qu'on vit beaucoup dehors.
Oui, c'est un climat doux, à Géorgie, même, c'est un peu Marseille, si vous voulez, donc c'est... Même l'hiver,
c'est difficile à imaginer alors qu'on est adossé aux montagnes de la Fédération de Russie.
Oui, ça. Alors dans les montagnes, il fait froid, mais Tbilissi, on est dans la plaine. Il m'est arrivé au mois de décembre de manger mon chashlik, la fameuse, qui est une religion en Géorgie, la brochette en bras de chemise au mois de décembre. On a une dizaine de jours par an maximum. Avec de la neige ou
juste pour la poésie finalement.
Voilà, histoire de dire que quand même.
Mais ça veut dire donc des fruits à longueur d'année, des légumes.
Oui, absolument. Là, on entend cette dame là qui vient dans ma cour vendre des pêches. L'hiver, ce sont les mandarines parce qu'on a une partie du territoire qui est de climat subtropical. Donc, on mange des fruits qui sont tout à fait abordables. J'ose espérer qu'ils sont encore assez bio. J'en suis pas totalement certain parfois, mais bon.
Vivre dans une ville Orient Occident. C'est notre vie de tous les jours aujourd'hui et jusque dans votre choix musical, Régis.
Sasmliani
Très très chouette le choix musical, Régis Janté. C'est le trio beau, Mandili, que vous nous avez fait découvrir, qui chante bien sûr en géorgien.
Bien sûr, bien sûr. C'est très très beau, effectivement. C'est vraiment l'alliance de la tradition, on le sent bien, ça vient, c'est de la musique qui vient encore une fois des montagnes du Caucase et de la modernité, parce que ces petites jeunes filles sont des malines, en fait, elles avaient déjà un groupe. Sur YouTube, elles ont posté ça, on a l'impression que c'est filmé au portable, en réalité, c'était très bien calculé. Ça a fait fureur sur les médias sociaux, ça a tourné dans le monde entier, et depuis, elles font des concerts un peu partout dans la région, en Turquie, en Bulgarie, etc.
Tbilissi, ville de la déglingue, vous nous le disiez, mais ville très internet.
Oui, absolument. Au point que Facebook est un outil politique et de lieu de débat politique féroce, et c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, on est très connecté, bien sûr.
Et bien sûr, la politique descend dans la rue aussi, parce que ici à Tbilissi, on n'est pas à Moscou. Vient-on d'entendre, Régis Janté?
Ce qu'on entend dans toutes les manifs, et j'en ai fait des centaines depuis 13 ans, ou des dizaines en tout cas, Sakartvelo, c'est le nom géorgien, c'est la Géorgie, c'est le mot Géorgie en géorgien. Donc il y a toujours cette composante très nationale, c'est un petit pays qui défend son identité, et Tsadi, c'est dégage, quoi, c'est va-t'en. Et c'est vrai qu'il y a une vraie liberté, c'est hyper politisé, Tbilissi, et donc on a la liberté dans le Caucase de dire au président, de le critiquer, de l'insulter et de lui dire dégage. Ouais. Je ne sais pas pour ça qu'il dégage. Mais
ouais. Alors justement, dans cette ville hyper politisée, quelle est la situation politique, la situation de la démocratie, les élections?
Parfois, mes amis, j'ai un ami poète qui une fois, à l'occasion d'un reportage, et qui est un vrai commentateur de la vie politique, et me disait, on est hyper politisé depuis 20 ans, on a des débats politiques et ça n'avance jamais. Je crois que mon ami Lacha, il avait un peu tort sur ce coup-là, parce que finalement, la Géorgie est à peu près la seule république post-soviétique, mis à part les pays baltes, qui a connu une transition démocratique en 2012-2013, élection parlementaire, élection présidentielle. Ça s'est bien passé, c'est l'opposition qui est au pouvoir. Alors, la nouvelle majorité oublie un peu tout ça et a tendance à vouloir écraser et faire disparaître du paysage politique la nouvelle majorité. Donc, ce sont les aléas de la démocratie, mais cette liberté, elle produit quand même des résultats. On parle politique, on peut critiquer le président, on peut parfois...
Alors, c'est vrai que dans l'esprit de beaucoup d'auditeurs, on a encore l'impression que Saakashvili a été un président emblématique. Hein. Il est resté longtemps au pouvoir, d'ailleurs. Il n'est plus le président aujourd'hui.
Il est resté deux mandats.
Jusqu'en 2013. Hein.
Il est resté pendant ces deux mandats. Il est parti ensuite parce qu'il a perdu l'élection. Donc, certains l'accusaient d'être dictateur. On est un petit peu outranciers parfois aussi dans le Caucase et les gens qui commentent le Caucase aussi, d'ailleurs. N'empêche qu'il est parti après avoir perdu une élection, tout simplement. Ouais. Donc, c'est pas si mal. Mais c'est vrai
que remplacé par le président, beaucoup mieux que moi,
Margvelashvili. Mais il est assez personne, en fait, d'abord, parce que ses pouvoirs ont été réduits. Et Saakashvili, c'est quelqu'un qui a vraiment voulu changer la face de la ville. Par exemple, il a changé l'architecture avec plein d'excès peut-être, mais il a voulu que ça soit transparent, il a éradiqué la corruption. Donc partout, on a des blocs de verre qui sont les postes de police, qui sont tout en open space par exemple, pour que le policier ne soit jamais seul avec le citoyen et qu'il puisse pas demander le bakchich, vous voyez. Mmh. Et ça marche vraiment.
Qui a dit que l'urbanisme n'était pas politique, hein?
Je ne sais pas.
Pourquoi le Parlement ne siège plus à Tbilissi, mais à Koutessi?
Ça, c'est une décision de Saakashvili sur la fin de son mandat. Il avait une vision de Tbilissi qui était juste... Parce que c'est une ville hyper politique. Lui pensait qu'elle était, je ne sais pas s'il a tort ou il a raison, mais il pensait qu'elle était trop encore empreinte de soviétisme et que l'intelligentsia héritée de l'époque soviétique. Bref, elle résistait aux changements ultralibéraux, etc., que lui voulait apporter. Il a voulu un peu comme ça vider la ville de ses passions politiques en quelque sorte. Puis après, il avait une idée aussi de développer le territoire. On en a un peu parlé, mais il y a déjà deux régions qui sont séparatistes, 20% du territoire.
Donc reconnu par Moscou.
Reconnu par Moscou, c'est l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud. Et c'était une manière pour lui aussi d'essayer d'habiter le territoire et peut-être de le développer, de montrer qu'on peut faire quelque chose, qu'il n'y a pas que Tbilissi qui a le droit au développement.
Mmh. Mais alors, ça veut dire concrètement pour les députés qu'ils font la navette tout le temps entre les deux villes?
Oui, sans que tout ait été prévu, donc ils font de la voiture. C'est pas.
Combien
c'est
de kilomètres est
de 250.
C'est ça où siège le Parlement.
Mmh. Ouais. 250 km, donc ouais. C'est pas à côté.
Bon, vider Tbilissi de ses passions politiques, c'est évidemment difficile. Vous restez avec nous, Régis Janté. Nous retrouvons Tbilissi, la ville Orient-Occident. Juste après le flash, nous parlerons, bien sûr, nous reviendrons sur les inondations qui ont été dramatiques, qui ont endeuillé la ville en juin dernier, avec près de 19 morts, très précisément d'ailleurs. Triste revers aussi d'un climat pourtant qui rend la vie si douce au quotidien, mais les inondations sont fréquentes. On se retrouve dans 3 minutes.
Sept milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez sur RFI. 7 milliards de voisins à l'heure d'été, avec chaque jour une escale dans une ville du monde et chaque jour une vie si différente de Hong Kong à Tbilissi. Quoi de commun? La ville Orient-Occident que vous avez choisi de nous raconter, Régis Janté, c'est là où vous avez posé vos valises il y a 13 ans et où nous sommes donc avec vous. Les auditeurs connaissent bien votre voix puisque vous êtes correspondant dans la capitale géorgienne et vous connaissez presque tout le monde d'ailleurs, je crois, à Tbilissi. La moindre arrière-cour.
C'est compliqué d'aller dans un restaurant et de ne pas connaître quelqu'un.
C'est ça. Votre ville d'adoption a connu des inondations d'une rare violence en juin dernier. Que s'est-il passé exactement?
En fait, les précipitations, la pluie était forte, mais pas tant que ça. Il s'est passé qu'à 10 km à l'extérieur de Tbilissi, il y a eu un éboulement de terrain. La terre s'est accumulée, barrant une rivière. Ça a formé un petit lac qui, tout d'un coup, a percé le passage et a entraîné avec soi des tonnes de boue, d'arbres, etc. Et ça a dévalé au cœur de Tbilissi, là où se trouve le zoo. C'est 400 mètres au-dessous de chez moi. Alors, il pleuvait beaucoup, il y avait beaucoup d'eau qui venait aussi des hauteurs de Tbilissi. J'ai dit que c'était une ville sur des collines, ville soviétique, pas trop restaurée. Donc, toutes les canalisations de collecte des eaux de pluie sont quasiment détruites et elles fonctionnent très peu et personne n'a osé investir là-dedans. Et en tout cas, d'énormes quantités d'eau se sont déversées sur le zoo, qui est un vieux zoo, mais qui auquel les Géorgiens sont attachés. On y va, c'est vraiment un lieu, on n'y va pas simplement une fois de temps en temps. Ma fille, elle y va tous les mois, elle le connaît par cœur, elle écrivait des emails, enfin, c'est pas écrire, mais pour sauver les animaux du zoo, quoi. Donc, il y a un vrai attachement, et quand j'ai pris des interviews, d'ailleurs, des milliers de jeunes sont venus ensuite pour nettoyer cette zone. Il y avait des victimes humaines, il y a eu
sans doute 19 morts, dont une personne, un homme qui s'est fait attaquer par un tigre.
Absolument.
En liberté dans la ville, puisque les animaux se sont retrouvés.
Absolument, on a eu des images incroyables, je savais pas que moi
j'avais. Vous avez eu peur,
vous-même? À couvrir la chasse, enfin du safari, puisqu'on avait un hippopotame au milieu des échangeurs routiers juste à côté du zoo. Puis ce tigre qui s'était réfugié dans une usine désaffectée, une de ces usines qui ne marche plus, et peut-être qu'il avait faim. En tout cas, il s'est attaqué à un homme, il l'a tué, il l'a mordu au cou. On avait peur parce que pendant plusieurs jours, on n'est pas sorti, on était dans le quartier du zoo, on ne savait pas si les animaux n'allaient pas, des animaux sauvages n'allaient pas se retrouver, des hyènes, des tigres. Et effectivement, ça a été une ambiance assez curieuse pendant quelques jours. On ne marchait pas, on prenait le taxi pour être sûr de ne pas tomber sur un lion au carrefour.
Qu'est-ce qu'il reste aujourd'hui des inondations? Un traumatisme, des polémiques politiques, pour revenir à cette ville très politisée?
Ça a failli, et pendant les quelques jours, on a senti l'opposition et le pouvoir se marquer à la culotte, comme on dit au football, c'est-à-dire vraiment essayer de blâmer les uns les autres. Puis comme il y a eu cette histoire on a compris que cette histoire d'éboulement, là, pour le coup, était vraiment une fatalité de la nature. On ne peut pas dire que c'était de la faute des uns ou des autres. Enfin, la polémique s'est éteinte. Ce qui en est peut-être resté, en tout cas ceux qui veulent être optimistes, c'est que les jours qui ont suivi, il y a eu toute la jeunesse de toutes les classes sociales, je crois, qui se sont réunies, qui se sont mobilisées sans rien demander. C'était vraiment un bon mouvement. C'était des milliers de jeunes qui sont venus nettoyer leur zoo, leur cher zoo où ils ont passé leur enfance, mais aussi toute la petite vallée, le petit vallon qui a été martyrisé, là où les gens sont morts pour la plupart. Et ça, c'est peut-être ce qu'on voudra retenir. C'est cette jeunesse qui se mobilise pour le bien de sa ville, parce qu'on est attaché. Tbilissi est une ville auquel on s'attache. Les gens sont vraiment attachés à leur ville. Donc il y avait ça aussi.
Et des dégâts de matériel énormes, hein, plus de 13 millions d'euros. Qui va payer d'ailleurs?
Je pense que ce sera l'État certainement, mais énorme ou non, ça reste concentré dans ce vallon avec des habitats qui étaient des habitats un peu sauvages. Donc c'est là que les gens ont été emportés
par les boues. L'habitat des plus pauvres.
L'habitat des plus pauvres pour une partie. Il y a ce zoo qui lui sera sans doute reconstruit quelque part ailleurs. Puis il y avait une nouvelle route parce qu'il y a de plus en plus de voitures à Tbilissi. Et à l'époque du Sakishvili, une percée avait été faite, une sorte de quatre voies au cœur de ce vallon menant d'un quartier à l'autre. Et il n'a pas résisté. Donc là, il faudra tout refaire. Donc on a encore plus de bouchons aujourd'hui qu'avant.
Pour ceux qui prennent l'émission en cours de route, je les rassure, hein, Tbilissi, c'est à peine un peu plus d'un million d'habitants. On est dans une ville-village, une ville à la campagne d'ailleurs, vous le disiez, où les fruits, les légumes abondent dans ce climat tellement méditerranéen. Et on est dans un pays, je le rappelle aussi, si vous prenez l'émission en cours de route, la Géorgie, avec des frontières avec la Fédération de Russie, l'Azerbaïdjan, l'Arménie et la Turquie, ville Orient-Occident, c'est le titre que vous avez choisi, Régis Janté. La vie reprend, bien sûr, après ces drames. Et la vie à Tbilissi, ce sont souvent, beaucoup, des repas arrosés de vin, mais pas seulement.
Taugari, რომ ძველ ხანჯალს ელ დაეცეს, გაისარჯოს და ბრძოლებში გაიხარჯოს, გაუმარჯოს საქართველოს მზეს და ზეცას, საქართველოს ძლიერებას გაუმარჯოს, დაუკარი ჯერ ხომ სისხლი გვიდუ ძარში, ჯერ ხომ საროს ფოთლები არ გასვლია, ჯერ ხომ ცხედი, სვეტი ცხოვლის დიდ დარბაში საქართველოს.
Janté, nous sommes bien à Tbilissi. Ce que nous venons d'entendre est tout à fait incroyable parce qu'on pourrait s'imaginer au théâtre. Nous ne sommes pas au théâtre, nous sommes dans votre appartement, dans votre salon, dans ou presque.
Ça se passe aussi dans mon salon. Là, c'est quelque chose qu'on a pris, ce qu'on appelle une soupra, en fait. La soupra, c'est la table géorgienne au sens large, et c'est une table qui est très ritualisée. Il s'agit pas simplement de manger, il s'agit de boire du vin. Et boire du vin, c'est pas pour se réjouir le palais, c'est un vrai acte de déclaration d'amour à la Géorgie, parce que le vin, il est partout, il est sur les bas-reliefs des très nombreuses églises de l'église orthodoxe géorgienne. Et la soupra, c'est le repas ensemble, c'est vraiment, ça a un sens très fort religieux, où un tamada, c'est le monsieur qu'on entend, en l'occurrence il dit une poésie parce qu'on est aussi très attaché à sa langue et à la beauté de cette langue, parce qu'elle est, c'est une langue qui est surtout belle pour sa poésie. Le tamada, c'est celui qui, à la table, dit des toasts. Et souvent, c'est très ritualisé. Ça commence par des toasts à Dieu, ça va passer par des toasts aux ancêtres, à nos parents morts ou à nos épouses, enfin, etc., aux enfants, à la descendance. C'est très, très religieux, très ritualisé. Et ça se passe aussi dans mon salon. Celui-là, il est vraiment très fort, ce monsieur. Il dit vraiment une très belle poésie. Parfois, c'est quand même un peu plus léger. Mais moi, lorsqu'on a des amis à la maison, ça finit souvent comme ça. Des gens.
Un repas un samedi soir avec des amis, il faut un tamada.
Oui.
Qui a l'art de dire, le talent de dire.
Absolument. Et ça se fait assez naturellement. On a des, j'ai un ami, Kara, qui est un homme de télévision, un homme de grande culture, quelqu'un qui est né dans le monde soviétique et russe, qui connaît tout ça par cœur. Il est né dedans, mais qui parle aussi un géorgien admirable. Et qui souvent va s'imposer, s'improviser Tamada. Ça vient tout seul. À un moment donné, on boit des verres. Il veut nous remercier pour l'avoir invité, lui avoir servi un repas absolument abondant et bon et gras et tout ce que vous voulez.
Et comment se déclenche ce moment-là? À la fin du repas, tout le monde le sait? Tout le monde?
Non, ça se fait quand c'est très ritualisé pour les enterrements, pour des mariages, c'est dès le début. Et quand Kara est à la maison, soit il est en forme, il a envie de causer, puis il attaque dès le début, ou alors ça se termine à la fin du repas lorsqu'on amène les mandarines sur la table. Mais à un moment donné, ça se fait assez naturellement. On prend son verre, on lève son verre, on écoute le toast qui peut durer. C'est vraiment l'art de la belle parole. Et là aussi, on est dans l'influence Orient-Occident, probablement que ça, pour les gens qui étudient la philosophie, ça fait penser au banquet de Platon, vous voyez. L'art de la belle parole, de dire des belles choses, de plaire aussi à ses hôtes, etc.
On a le réflexe de chanter en même temps?
Oui, on chante soit des chants comme ça, et vraiment c'est ce que j'entends à la maison. On a des amis qui tout d'un coup se mettent à entonner des chants polyphoniques géorgiens. Parfois on prend la guitare, on est plus dans le style italien, léger, des petites chansons géorgiennes, parce que c'est une ville qui a aussi sa tradition de chansons de ville, avec des influences venues des montagnes. Le style italien aussi, napolitain, qu'on peut entendre à Tbilissi dans les chansons anciennes.
Comment apprend-on à devenir tamada, ou tout simplement à chanter? Comment se transmet ce patrimoine-là avec les nouvelles générations?
En fait, on n'apprend pas. Je crois que c'est le plaisir de la table, il est ritualisé de cette façon. On s'aperçoit que c'est très agréable pour un étranger comme moi, je le reste. C'est quelque chose dans lequel on se mettrait de manière très agréable, parce qu'on se dit des choses gentilles, on se dit des belles choses, on essaie de bien les dire, et finalement ça vient rythmer le repas de manière très agréable. Donc ça s'apprend pas, ça fait vraiment, c'est vraiment ça l'esprit de la Géorgie en fait. Donc je pense que les futurs tamadas sont des gens qui auront vécu des dizaines et des dizaines de tables.
Ça veut dire des enfants qui auront bâillé au cours de ces dîners et qui auront été bercés. Tomber dans un profond sommeil avec ses chants.
Exactement, absolument, c'est vraiment ça.
Néanmoins, il y a aussi des cours de musique, des cours de danse pour la classe moyenne, aisée.
C'est un autre aspect, si j'ose dire, de la culture musicale, de ce qu'on se met dans l'oreille. C'est sans doute ce qui vient de l'époque soviétique et avant aussi de la liaison, de la relation avec la culture russe, c'est-à-dire le plaisir de la musique classique, du piano,
le plaisir,
du chant.
Il est fort.
Il est fort et on a presque...
Et l'effort aussi.
Les Géorgiens sont un peu paresseux, donc parfois ils font pas forcément l'effort, mais il y a des vrais talents. D'ailleurs, actuellement, en Europe, il y a plusieurs chanteurs d'opéra ou des chanteuses, des divas qui sont d'origine géorgienne et qui tournent très bien à l'Opéra Bastille, en Italie, etc.
Mais c'est ça, ça veut dire que quand on entend les sons de votre voisinage dans votre cour, un piano par appartement, ça n'est pas si incroyable que cela?
Non, il y a vraiment quasiment un piano dans chaque
avec
appartement.
Avec des enfants qui prennent des leçons et qui transpirent sur les partitions de musique.
Ma fille qui a 4 ans, mais elle prend déjà des cours de ballet, elle a son petit tutu rose et elle fait ça très sérieusement. Et elle va chanter aussi 2 fois par semaine avec une professeure de jazz qui vraiment les fait travailler, monter, descendre, etc.
Donc il y a un vrai effort. Votre programme musical est très varié, Régis Janté. Il y a un chanteur qui est encore dans toutes les mémoires, qui est mort il y a quelques années, je crois, d'une overdose.
Oui, oui.
Alors là, on n'est pas dans le classique, mais talentueux.
Tout aussi talentueux et tout aussi au cœur de l'âme géorgienne, avec un côté tragique, comme ça, très, très à fleur de peau. D'ailleurs, la chanson qu'on va écouter s'appelle Souls, c'est la soul, mais à la géorgienne, on va dire.
Chanson, Sauce, elle est encore dans toutes les têtes, toutes les mémoires, y compris chez les jeunes.
Oui, Steve, c'est vraiment un peu moins chez les jeunes, certainement. C'est une génération qui disparaît. Ce type est une légende. Il est connu du petit monde intellectuel, de la société artistique. Les Géorgiens sont très artistes, vraiment. Ils sont réputés comme ça dans l'ex-URSS. Et lui, il était bourré de talent, bourré aussi de tragédie en lui. Et là, c'est une chanson d'amour qui dit « Tu es comme une mer calme, mais je me noie toujours dans tes vagues ». Voilà, on sait dire les choses en Géorgie. J'aime beaucoup ça parce que c'est un côté très cool, très soft. Et puis derrière, on sent tout de suite la tragédie. Et j'ai une amie photographe polonaise, il y a plein d'étrangers qui adorent s'installer à Tbilissi, on y reste. Elle est là comme moi depuis 2002 à peu près, Justyna Mielnikiewicz, très talentueuse. Et elle a une photo pour moi qui dit toute la Géorgie. Elle prend c'est une photo en noir et blanc d'un couple qui est assis allongé dans une rivière, la tête reposant sur une pierre. Ils sont en train de fumer une cigarette et on sent tout le tragique dans leurs yeux. C'est cool, ils sont en train de laisser l'eau couler sur eux, mais on sent que c'est pas facile.
Tragique, nostalgique aussi. Ville Orient-Occident, nous sommes bien à Tbilissi avec vous, Régis Janté. Une ville en grande majorité orthodoxe, hein, puisqu'on l'a dit, il y a 12% de musulmans à peu près.
Oui.
Vous allez nous expliquer aussi ce que ça signifie, orthodoxe dans l'esprit et la vie des habitants de Tbilissi. Où sommes-nous exactement, Régis ?
On est à l'église de Sioni. J'avais enregistré ça il y a une dizaine d'années, je crois, un soir de Noël. C'est le chant Halilo, c'est un chant de Noël.
Il n'y a pas bougé ce chant, de toute façon, tous les ans.
Non, et l'église non plus. Elle est là depuis, des siècles et des siècles. C'est une très belle vieille église. La religion est partout. Ça fait vraiment partie du quotidien parce que être géorgien, dans la conscience géorgienne, c'est être orthodoxe. Et donc, elle est partout, elle est un peu trop partout, à mon avis, même parfois.
Mais d'autant plus que, pendant longtemps, à l'époque soviétique, elle n'avait pas sa place.
Elle n'avait pas sa place, elle est revenue dans les années 70, disons. Effectivement, dans le combat pour l'indépendance, pour la liberté, disons, elle a été une force mobilisatrice. Être géorgien, c'est être orthodoxe. Et donc, elle a été au cœur de ça, même si elle a été manipulée à souhait par le KGB et les structures du pouvoir soviétique, bien sûr.
Pourquoi vous dites-vous trop présente ?
Parce que c'est un avis assez personnel, mais d'abord, elle est vraiment partout. Le patriarche est vénéré. On peut pas le critiquer. Les gens, donc, c'est ses paroles d'évangile. C'est vraiment le cas de le dire. En plus, c'est une église qui, à bien des égards, est rétrograde. Elle a fait interdire Harry Potter parce qu'il faut pas d'influence américaine.
Le célèbre roman pour enfants et adolescents anglais.
Mmh. Elle a essayé de le faire interdire. En tout cas, elle essaie d'être très présente dans la vie de chacun. Elle n'aime pas les valeurs démocratiques et libérales. C'est pas ce qu'elle préfère. Elle a cette vision assez holiste, on va dire, de la société. Et c'est vrai que tous les Géorgiens, en fait, vont assez peu à l'église. On se dit géorgien et religieux et respectueux de valeurs, mais c'est pas vrai. Mais chacun passant devant une église à Tbilissi, y compris les chauffeurs de taxi, ils lâchent le volant et ils se signent trois fois. Donc ça fait vraiment partie de la vie de Tbilissi.
Tout en n'allant pas à la messe.
Non.
Ça peut sembler assez contradictoire.
Oui, mais c'est une religiosité un peu de façade en quelque sorte. Quoi.
Une part de folklore.
Folklore, je dirais pas ça. C'est une manière de se représenter, de se faire des illusions sur soi-même et sur sa moralité. On peut être un grand bandit. Bon, la Géorgie a aussi une tradition de banditisme et passer devant l'église, se signer et puis après aller faire son travail. Solis, nangre mina.
лазурные небеса сияет только над тобой. Тбилиси, мой любимый. Рихала здесь стоит, как память прошлых тяжких лет. Твою голову венчая сединой, рассветай под солнцем, друзья моя. Ты судьбу свою вновь обрела. Без тебя и жизнь мне не мила.
Song about Tbilisi chez 7 milliards de voisins. Régis Janté, vous êtes le décodeur du programme musical aujourd'hui.
Oui, Tbiliso, c'est un ode à Tbilisi. Et c'est chanté par Nani Bregladze, qui est une vraie légende de l'époque soviétique. C'est une Charles Aznavour ou une Juliette Gréco du monde soviétique. Elle est adulée partout. Et moi, d'ailleurs, quand je vais au Kazakhstan, en Ukraine, un de mes jeux, c'est de discuter avec mes chauffeurs de taxi et de leur demander de me chanter cette chanson. Il y en a même au Kazakhstan qui me l'ont chanté en géorgien, c'est vous dire. Et voyez, elle commence en géorgien, je sais pas si vous avez repéré, puis à un moment donné, elle passe au russe. Et là, ça dit aussi beaucoup de choses de l'intelligentsia géorgienne, qui au fond a bien vécu aussi. Enfin, à la fois la Géorgie a souffert des purges staliniennes, etc. Et en même temps, ce sont des gens qui ont aussi trouvé leur place à un moment donné et qui ont tout pris de l'Union soviétique et qui sont parfois nostalgiques.
Alors justement, Tbilisi, une petite ville, on l'a dit, un peu plus d'un million d'habitants, mais pas figée pour autant. Sur quel chemin est la capitale géorgienne, presque aux portes de l'Europe? Je rappelle qu'il suffit de traverser la mer Noire pour accoster en Roumanie, avec un voisin russe encombrant, c'est le moins qu'on puisse dire, l'annexion de la Crimée par la Russie, la guerre en Ukraine. Comment c'est vécu tout cela à Tbilisi?
C'est vécu avec crainte, c'est vécu avec... 20% du territoire géorgien est contrôlé par les Russes, et ils ont fait ce qu'il y a 25 ans lorsqu'ils ont pris ces deux régions séparatistes géorgiennes, ce qu'ils font aujourd'hui les Russes dans le Donbass en prenant une partie de l'Ukraine pour des raisons de grande politique. Et les Géorgiens se sentent bien sûr humiliés, et puis on leur prend du territoire. Ça, c'est très important. Alors il y a toujours une partie de l'opinion qui est un peu pro-russe, mais je pense que globalement ce sont quand même des gens qui savent qu'il n'y a rien à attendre de bon de la Russie. Le problème, c'est qu'ils voient bien que l'Europe n'a pas envie d'intégrer la Géorgie, et que la Géorgie fait beaucoup d'efforts sur tous les gouvernements. On peut dire qu'il y a eu un progrès pour essayer de se rapprocher de l'Europe, rapprocher des standards européens. Sur le plan des lois, de fonctionnement de la démocratie, de la gouvernance. Saakashvili a sans doute commis des erreurs, mais il a fait des choses extraordinaires. Il a éradiqué la corruption de ce pays. Il a simplifié la bureaucratie à l'extrême, qui sont autant de prétexte bien sûr pour prendre de l'argent, de la corruption. Donc il y a vraiment des efforts, puis en même temps on veut se sentir européen. Ça fait très longtemps, au 19e siècle, les aristocrates qui étaient très bien représentés dans la bureaucratie tsariste russe, en même temps ont été les fers de lance du nationalisme, de l'indépendance, et lorsqu'ils faisaient du vin, ils le faisaient aussi à l'européenne. Pour se rapprocher de l'Europe. Donc c'est une grande tendance lourde.
Oui. Mais aujourd'hui, ce débat, cette inquiétude-là, elle perce au grand jour, dans la presse.
Elle est dans le combat politique. Le nouveau gouvernement avait reproché au précédent à l'équipe de Saakashvili d'être trop dans la confrontation avec la Russie. Aujourd'hui, l'homme qui dirige ce pays n'est ni géorgien formellement, enfin il est français même à vrai dire, mais parce que bon, c'est un géorgien, mais il n'a plus le passeport géorgien. Il est milliardaire qui a fait fortune en Russie, monsieur Bidzina Ivanishvili, et on se demande à quel jeu il joue. Est-ce qu'il n'est pas en train de redonner les clés à Moscou, ou est-ce qu'au contraire il essaie d'amadouer l'ours russe en lui faisant croire qu'on va être gentil tout en continuant à se rapprocher de l'Europe, ce qui est aussi le cas. On continue à se rapprocher de l'Europe.
Ouais, mais avec cette inquiétude en toile de fond, plus que palpable dans la vie de tous les jours.
Absolument. Et ce qui se passe en Ukraine inquiète terriblement les Géorgiens, parce que si l'Ukraine véritablement se détruit complètement, ça aura forcément des répercussions sur la Géorgie, et probablement que Moscou remettra définitivement la main sur la Géorgie.
Régis Janté, nous arrivons bientôt au terme de cette émission. On va devoir se quitter, Tbilissi. Vous-même d'ailleurs, lorsque vous quittez Tbilissi, comme c'est le cas, là vous êtes de passage en France pour plusieurs semaines, est-ce qu'il y a quelque chose qui finalement, inexorablement, vous rattrape, vous manque de la ville Orient-Occident?
J'y suis tellement qu'au départ, je suis content d'en partir et de retrouver des grandes villes européennes où tout fonctionne, etc. Même s'il y a des choses qui fonctionnent mieux à Tbilissi, l'Internet, et on l'a même dans la rue parfois, ce qui n'est pas toujours le cas en France, et on l'a surtout dans tous les cafés, etc. Oui, non, ce qui manque, c'est la chaleur, les amis, ma cour. C'est agréable d'avoir des villes comme ça assez petites où on connaît tout le monde.
Et les arts qui imprègnent votre vie aussi, non?
Oui, mais ils restent malgré tout moins importants que dans des villes comme Paris, etc.
Cette poésie du quotidien.
La poésie du quotidien, voilà. Des gens qui vous appellent mon oiseau, qu'est-ce que tu fais là?
Merci Régis Janté. Didi Madlaba, Loba.
Didi Madlaba, merci beaucoup.
Merci d'avoir entrouvert pour nous quelques portes d'arrière-cour à Tbilissi, ville Orient-Occident. Demain, dernière ville avant le week-end, on sera également non loin de l'Europe, mais au bord de la Méditerranée. Vivre dans une ville imperturbable, Alger et sa vie quotidienne, racontée par Leila Berato, correspondante pour RFI. À demain.